Vous écoutez RFI, il est 3h du matin à Paris, 1h en temps universel.
Fabrice Le Grillet.
21h et 21h à Ottawa, le Canada, où l'on va bientôt connaître le résultat des législatives anticipées. Les premiers chiffres sont d'ailleurs en train de tomber. Ils semblent favorables aux favoris du scrutin, le libéral et actuel Premier ministre Marc Carney. Les suites de la gigantesque panne d'électricité qui a touché la péninsule ibérique ce lundi midi. Les choses reviennent très lentement à la normale et l'on ne connaît toujours pas l'origine de ce blackout. Vladimir Poutine annonce une trêve sur le front ukrainien durant 3 jours, du 8 au 10 mai, tentative de manipulation, rétorque Volodymyr Zelensky. Et en France, la chute d'un réseau historique de narcotrafic. En Espagne, l'électricité a été rétablie à plus de 61% et les services sont à pied d'œuvre pour retrouver une normalité. Toutes les hypothèses restent envisagées, aucune piste n'est écartée concernant la gigantesque panne de courant qui a débuté ce lundi midi dans la péninsule ibérique. C'est ce qu'a déclaré le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez. Les autorités portugaises affirment que l'origine de cette panne pourrait bien être en Espagne. Le Portugal qui a lui aussi été fortement impacté et où la situation revient progressivement à la normale. Le courant a notamment été rétabli chez quelques 750 000 consommateurs ces dernières heures. Une journée de galère en tout cas, comme en témoigne Margarida Silva, habitante de Lisbonne, qui est parvenue à joindre Kim Du.
J'ai passé la journée au bureau parce que nous avons un générateur. L'entreprise pour laquelle je travaille a proposé qu'on reste pour que nous puissions avoir un accès à Internet, pour que l'on recharge nos téléphones, nos ordinateurs. Je n'ai pu joindre quasiment aucun de mes proches, car la plupart n'avaient pas d'Internet. Mais à un moment, j'ai pu parler à ma mère et lui dire « Aide-moi, viens me chercher, c'est la seule façon de quitter le travail ». Le métro ne fonctionnait pas, il n'y avait pas de train non plus, ni aucun transport public. Mes parents ont donc été obligés de venir me chercher. Maintenant, je suis rentrée, ça va. Mais bien sûr, cela fait un peu peur. C'est totalement nouveau pour moi, mais ça va aller.
Et l'autre grand titre, ce sont les élections législatives anticipées au Canada. Et d'après les premiers chiffres et les premières informations données par Marine de la Moissonnière, l'une de nos correspondantes sur place, c'est le camp libéral qui remporte les premières voix. Les dépouillements sont toujours en cours, camp dirigé par l'actuel Premier ministre Marc Carney, le favori face au conservateur Pierre Poilievre. Un scrutin dans l'ombre de Donald Trump. Le président américain a de nouveau évoqué une éventuelle annexion du Canada, rappelant qu'il deviendrait le 51e État américain, ingérence américaine donc, même si à la sortie d'un bureau de vote, Régent, retraité de 66 ans, assure ne pas s'être décidé uniquement en fonction des attaques de Donald Trump.
Ben disons, c'est sûr qu'on a toujours le côté US qui nous traîne en arrière de la tête, mais c'est surtout la question de la santé mentale et tout. C'était une des priorités que j'avais pour moi, la santé. Et puis comme des raisons, voyons, les habitations, on manque d'habitations, là. Il y a beaucoup de gens qui sont dans la rue. Et puis c'est important ça aussi.
Ça, ça a compté pour vous, plus que le contexte international?
Je crois que oui. Parce que je veux dire, pour qu'on soit, il faut qu'on soit bien chez nous pour commencer. Là. Je pense que c'est important qu'on prenne soin de nous-mêmes en premier lieu.
Vous regrettez qu'on ait parlé autant de Donald Trump pendant cette campagne?
Ah oui, ça c'est sûr et certain, mais qu'est-ce qu'on veut? C'est quand même quelque chose qui est assez gros aussi. Là. C'est normal que ça sorte dans les médias, qu'on en parle tout le temps. Là. On connaît Trump. Hein? On n'a pas besoin de dire vraiment grand-chose. Et on le connaît.
Et ça vous inquiète, vous, ces attaques?
Non. Le Canada est fort. Je crois qu'on va s'en sortir. Et puis, on est reconnu pour des gens trop polis. Hein? Alors, c'est vrai qu'on est trop polis. Mais je crois qu'à un moment donné, les gens vont dire, bon, OK, c'est assez la politesse. Et puis, on passe à l'action. J'ai confiance.
Témoignage recueilli par Marine de la Moissonnière, envoyée spéciale au Canada. Nous reviendrons bien évidemment sur les résultats des législatives canadiennes tout au long de nos éditions. Et nous parlions de Donald Trump. L'administration du président américain va prendre des mesures pour réduire l'impact des droits de douane imposés sur les importations automobiles. On l'a appris il y a quelques minutes. Cela va consister à alléger certaines taxes prélevées sur des pièces étrangères utilisées pour des véhicules fabriqués aux États-Unis. Vladimir Poutine propose un nouveau cessez-le-feu à l'Ukraine. Cette fois, il s'agirait d'une trêve de 3 jours à l'occasion de l'anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Avec cette trêve, on passe donc de 30 heures à 3 jours de cessation des hostilités. Mais cela reste insuffisant pour l'Ukraine. Les précisions de Daniel Valo.
Vladimir Poutine avait déjà proposé une trêve au moment des fêtes de Pâques. Trêve qui avait entraîné une accalmie toute relative sur la ligne de front. Cette fois, c'est l'anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale, célébré en grande pompe à Moscou le 9 mai, qui justifie l'annonce. Le cessez-le-feu doit débuter, précise le communiqué du Kremlin, le 7 mai à partir de minuit et s'arrêter 3 jours plus tard. Comme pour la trêve pascale, le Kremlin considère que l'Ukraine doit suivre l'exemple russe et que l'armée russe se réserve le droit de riposter à toute violation de la trêve. L'annonce a déjà été accueillie très froidement par Kiev. L'Ukraine adopte d'ailleurs la même position qu'au moment des fêtes de Pâques et demande, elle, un cessez-le-feu immédiat pour au moins 30 jours. L'annonce de la Russie intervient en tout cas à un moment que l'administration américaine a qualifié de crucial. C'est le mot utilisé par le secrétaire d'État Marco Rubio, qui espère très vite des progrès dans les négociations entamées avec la Russie.
Emmanuel Macron, quant à lui, assure, je cite, que nous allons accroître la pression sur la Russie dans les 8 à 10 jours prochains. C'est ce que le président français déclare dans un entretien accordé à Paris Match. Au moins 26 morts, dont 4 femmes, 6 enfants. Dernier bilan de l'explosion d'une mine artisanale placée le long d'une route dans l'état de Borno, dans le nord-est du Nigeria, à la frontière avec le Cameroun. Attaque non revendiquée. L'état de Borno est le berceau et le bastion de Boko Haram, qui a intensifié ses actions ces dernières semaines dans le secteur. Un réseau de trafic de stupéfiants historiques démantelé à Marseille. Le procureur de la République est revenu sur l'interpellation d'une vingtaine de narcotrafiquants du clan de la Castellane, l'un des réseaux les plus prolifiques de la cité phocéenne et un véritable réseau international sur lequel planent des soupçons de lien avec le narco-banditisme belge, tandis que son leader principal est actuellement sous les barreaux en Algérie. Derrière les barreaux plutôt, retour sur cette enquête de longue haleine avec Siam Spencer.
L'enquête aura duré 16 mois et aboutit entre autres à l'interpellation de 8 gérants des principaux points de deal du clan de la Castellane, explique Nicolas Besson, procureur de la République de Marseille.
Nous cherchons tous les jours à remonter, à démanteler les trafics et les réseaux, mais là on est parti de la tête. Les personnes ont été interpellées, ceux qui n'ont pas été interpellés sont actuellement en fuite.
Des interpellations rendues possibles grâce à l'infiltration du clan via la messagerie cryptée exclue, une véritable boîte de Pandore pour les enquêteurs qui découvrent toute l'organisation du réseau.
L'ensemble de l'organisation, sa méthodologie, ses modes de travail ont été mis à jour.
Sont ainsi dévoilées l'identité du chef du clan, mais aussi les activités allant du trafic de stupéfiants en passant par l'extorsion, le trafic d'armes et le crime en bande organisée. Un réseau au fonctionnement pyramidal et aux recettes exponentielles.
Le chiffre d'affaires annuel avoisine les 15 millions d'euros. On peut même chiffrer entre 30 et 40 millions d'euros relevés dans les années 2022 et 2023.
Le procureur de la République termine en expliquant rester prudent si la Castellane est aujourd'hui calme. Ces moments de répit sont souvent l'occasion pour d'autres réseaux de trafiquants de venir récupérer les points de deal restés vacants. Siam Spencer, Marseille, RFI.
En France, toujours, une proposition de loi pour transformer le prêt du tambour ivoirien en restitution a été adoptée mi-avril en commission des affaires culturelles du Sénat. Elle vient d'être examinée et votée sans difficulté ce lundi en séance publique afin de répondre à la demande de la Côte d'Ivoire qui réclame 148 œuvres au total. Le sénateur Max Brisson est rapporteur du texte de loi. Il salue une étape importante qui va permettre aux Ivoiriens de récupérer la pleine propriété du tambour, joint par Victorien Villaume.
La ministre Rachida Dati et sa collègue ivoirienne Françoise Remarque ont déjà signé une convention de dépôt, ce qui permet à la France de transférer le tambour en Côte d'Ivoire pour qu'il soit installé dans le musée des civilisations ivoiriennes d'Abidjan. Mais il manquait, tout simplement par une sorte de négligence au niveau des autorités françaises, les textes de loi qui permettent de sortir ce tambour des collections françaises et d'en donner la pleine propriété à la République de Côte d'Ivoire, parce que les Ivoiriens seront sensibles à récupérer en même temps le titre de pleine propriété sur le tambour.
Restitution prévue en principe en juillet. Notez que le texte devra passer à l'Assemblée pour être définitivement adopté. Ce sera le cas avant juillet, espère Max Brisson. François Bayrou entamera ce mercredi un cycle de consultations sur la proportionnelle. Le Premier ministre l'avait promis lors de son arrivée à Matignon. Il est un défenseur historique du mode de scrutin proportionnel pour l'Assemblée. François Bayrou recevra l'ensemble des chefs de parti et des présidents de groupes parlementaires qui sont représentés dans l'hémicycle. Du football, Carlo Ancelotti va quitter son poste d'entraîneur du Real Madrid en fin de saison. C'est du moins ce que rapportent plusieurs médias espagnols. L'Italien pourrait ainsi prendre la tête de la sélection du Brésil. Alors, il n'y a rien de confirmé pour le moment. Et puis, football toujours, ce mardi soir, Ligue des Champions avec les demi-finales aller et l'un des matchs très attendus, Arsenal face au Paris Saint-Germain, avant la rencontre très attendue aussi, Barcelone-Inter Milan mercredi soir. Soirée foot que vous suivrez évidemment en écoutant RFI, la radio du monde.